France Musique. Brut d'accordéon. Félicien Bru. France Musique.
Chères auditrices et auditeurs de France Musique, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 16e numéro de Brut d'accordéon, un numéro que j'attendais avec impatience car comme je vous l'ai promis la semaine dernière, je suis à nouveau cette semaine en compagnie d'un musicien exceptionnel, de celui pour qui j'ai une admiration sans borne. Je veux bien entendu parler du grand Richard Galliano. Bonjour Richard.
Bonjour Félicien.
Alors la semaine dernière, on s'est un peu arrêté au milieu de l'histoire, au début des années 90, au moment où tu as commencé à lancer cette carrière internationale folle avec des projets merveilleux. Et donc on va continuer à raconter cette histoire, ce récit aujourd'hui si tu es d'accord. Mais avant de poursuivre justement ce récit et cette histoire, je vous propose à vous, chers auditeurs, d'écouter Richard Galliano jouer un peu de musette, mais du musette à la mode Galliano. Cette valse, cette chanson mythique composée par Hubert Giraud que vous entendez ici sous les doigts d'Eddie Louis à l'orgamonde et Richard Galliano à l'accordéon qui est notre invité donc aujourd'hui. Alors Richard, comment s'est fait cette rencontre avec Eddie Louis? Comment ça s'est passé? Vous avez eu, je crois, envie d'enregistrer ce disque tous les deux en 2001. Comment ça s'est passé?
D'abord, pour moi, ça s'est fait à travers les disques. Je vénérais Eddie Louis à travers les disques que j'écoutais avec Stan Getz, avec Kenny Clarke. Eddie Louis, c'est un monument, c'est un des plus grands musiciens. On s'est rencontrés par rapport à Nougaro aussi, parce qu'on faisait partie de la tribu de Nougaro, et on m'en donnait l'envie d'enregistrer, voilà. Ça se passe toujours, comme disait Astor Piazzolla, lorsque je dois faire rencontrer un nouveau musicien, il faut que je partage un repas avec lui. Et d'ailleurs, il rajoutait, lorsque je suis avec des gens qui ne boivent pas, ne mangent pas, je m'en méfie terriblement. Là, avec Eddie Louis, c'était pas le problème, c'était, voilà, tout ce... Et l'envie commune d'enregistrer et le duo pour ça c'est où ça passe où ça casse quoi.
C'est très vrai.
Dès les premières mesures, oui. On sent. Tu vois ça avec Lucienne d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Avec le duo.
Oui, on a besoin de se sentir.
Voilà, parce
sentir
que
connecté.
C'est comme si on partait en escalade. Et on a besoin de l'aide, on peut se faire aussi des croche-pieds aussi.
Oui, c'est vrai. Mais il faut avoir confiance quand même.
Mais moi, j'ai toujours aimé ça avec le duo Portal, avec
alors justement, tu vas travailler avec tous les grands noms vraiment du jazz international. Alors, comment ça s'est passé finalement l'arrivée de l'accordéon sur le devant de la scène en jazz? Parce que là, il n'était pas question, tu n'étais pas en side dans les formations.
Oui,
c'était
oui.
Toi qui étais un peu à l'avant-poste ou en tout cas qui partageait la scène de manière équivalente avec ces musiciens de génie. Est-ce que tout de suite, ils t'ont accepté, ils ont accepté l'instrument ou au contraire, il a fallu les convaincre?
Tout à fait. Ma première surprise agréable, ça a été justement au sein de l'orchestre de Nougaro. La plupart des musiciens, Maurice Vander avait joué l'accordéon, Bob Garcia aussi, Francis Cournet aussi, le saxophoniste, et ils étaient amis avec les grands accordéonistes comme Mazzola, comme Baselli, et il n'y avait aucun préjugé au contraire sur l'accordéon. Mais dans l'ambiance classique ou jazz à Paris, l'accordéon était toujours, il y avait quelque chose de péjoratif,
plus connoté, hein, oui.
Comme le bandoneon en Argentine. Piazzolla me racontait la même chose.
Hein. Oui. Alors on va écouter de la clarinette avec un de tes duettistes avec qui tu as joué énormément, c'est Michel Portal, bien entendu. Vous avez enregistré un album absolument incroyable en 1996, ça s'appelait Blow Up.
Ça parle toujours de souffle, hein.
Ah ça, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Up, oui. Et on va écouter une pièce Mozambique, une composition de Michel Portal que vous avez enregistrée sur cet album. Nous écoutions Michel Portal et notre invité Richard Galliano à l'accordéon, Michel Portal à la clarinette dans Mozambique, une pièce composée par Michel Portal. Alors moi Richard, j'ai envie de te poser des questions un peu sur ton rapport à la scène, parce que donc dès les années 90 tu vas te mettre à parcourir la terre entière. Moi je suis bien placé pour le savoir, n'importe quel pays dans le monde où j'arrive à l'aéroport, quand le taxi vient me chercher et qu'il me voit avec mon accordéon sur le dos, il dit ah vous connaissez Richard Galliano. Voilà, donc c'est partout, donc tu vas jouer partout avec les plus grands musiciens de la planète. Et puis ce qui est frappant quand on te voit en concert, c'est cette énergie, cette générosité que tu as, qui est très caractéristique. Je crois que tous les auditeurs qui t'ont vu sur scène seront d'accord avec moi. Vraiment, immédiatement, tu embrasses la scène, le public, et on a l'impression que t'es totalement là. Comment ça se passe? Comment tu vis ce moment-là? Est-ce que c'est un besoin pour toi? Tu me racontais tout à l'heure un peu ta timidité au départ, que t'as dû vaincre. Comment ça s'est passé?
Oui, oui. Moi, j'étais d'une timidité vraiment maladive. Lorsque je suis arrivé à Paris, d'ailleurs, j'étais vraiment très 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 timide, très mal à l'aise dans la vie, dans le quotidien, quoi. Et je me suis aperçu que en fait je suis beaucoup plus à l'aise sur scène. Ma timidité s'en va sur scène parce que bon, à la fois je fais corps avec mon accordéon, c'est un jeu de mots facile, mais c'est vrai que je suis protégé, je sais que je peux avoir confiance en lui. Puis le rapport à la scène, c'est quelque chose de magique, quoi. Mais encore aujourd'hui, dans le quotidien, je suis beaucoup moins à l'aise. Et en vieillissant, j'ai beaucoup plus l'appréhension, le trac. Alors là, j'ai une série de concerts à assurer et bon, quelques jours avant, je suis très mal, je suis angoissé, j'ai du mal à choisir l'instrument que je vais devoir prendre. À la limite, j'ai pas vraiment très envie de jouer non plus, oui. Et puis bon, tout ça s'efface à partir du moment où je suis sur scène et où je peux vraiment m'exprimer. Mais je pense que ce tempérament des fois d'un peu de feu que je peux avoir, ça vient de ma mère, ça vient du sud de l'Italie. C'est pour ça que j'ai besoin de jouer, parce que sinon je sombre un peu dans un...
Et nous, on a besoin que tu joues beaucoup, et on est très heureux à chaque fois de t'entendre jouer, c'est un tel bonheur. Alors il se trouve qu'en 1999, tu choisis de te rapprocher de l'univers de la musique classique que tu aimes finalement depuis toujours, avec un album magnifique, ça s'appelle Passatori, et on va écouter tout de suite la valse à Margot, extraite de cet album. Nous écoutions la valse à Margot par Richard Galliano et l'orchestre de Toscane, un enregistrement de 1999. Alors, qui est Margot, Richard ?
Margot, c'est ma nièce qui a 35 ans, comme la valse. Et cette valse, c'est la première valse musette que j'ai écrite, vraiment. Et à l'époque, j'accompagnais Juliette Gréco. On était resté une semaine à Oslo. Et dans ma chambre d'hôtel, j'ai commencé à écrire un morceau et ça, j'ai atterri à cette valse, voilà, et que j'ai dédiée à Margot.
Valse absolument merveilleuse parce qu'on...
AUX, hein, il faut pas se tromper.
Ah oui. Parce qu'on entend toutes les influences, parce que c'est à la fois musette, éminemment musette, mais c'est aussi très jazzy, très swing, et c'est aussi très classique parce qu'on y a des élans très, très, très chopiniens finalement dans cette valse à Margot. Est-ce que ça a été une volonté ou est-ce que c'est
non,
un peu
Comme m'a toujours dit, Claude Nougaro, je comprenais pas toujours son conseil. Il me disait, il faut cultiver ses défauts. Et mon défaut, c'est justement de vouloir toucher à tout et d'être comme ça, aimer la musique dans toutes ses formes.
Oui, mais c'est une immense chance pour l'accordéon finalement d'avoir aimé toutes les musiques parce que tu les as servies éminemment bien. Alors, en 2010, c'est une grande année, il va se passer quelque chose de fondamental, de très marquant dans ta carrière. Tu vas signer un contrat avec Deutsche Grammophon, une mythique maison de disques de la musique classique. C'est la première fois qu'un accordéoniste fait son entrée dans un label aussi prestigieux. Tu vas enregistrer plusieurs disques en hommage à des compositeurs. Donc, il y aura d'abord un disque dédié à Jean-Sébastien Bach, puis un disque dédié à Vivaldi, puis un disque dédié à Mozart. Et j'aimerais beaucoup qu'on écoute un extrait de ce quatuor numéro 1 en ré majeur pour flûte et trio de cordes. Mais là, c'est pour accordéon et trio de cordes, bien sûr. Le quatuor numéro 1 en ré majeur pour flûte et trio de cordes, le deuxième mouvement de ce quatuor que tu as donc enregistré, Richard, en 2016 sur ce magnifique album consacré à Mozart qui est paru chez Deutsche Grammophon. Alors, moi, tout ça m'interroge sur un peu le répertoire de l'accordéon, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi en France, on a eu un peu de mal finalement à accepter que l'accordéon soit, comment dire, soit divers, soit un peu caméléon? Parce que finalement, l'accordéon, c'est cet instrument-là aussi. C'est un instrument à la fois éminemment populaire, mais qui peut jouer comme ça des magnifiques mélodies en musique classique, qui peut aussi s'insérer dans le jazz ou dans la musique traditionnelle ou folklorique. Pourquoi en France, on a vraiment eu cette histoire un peu compliquée autour des répertoires?
Je crois que c'est pas lié simplement à la France. Je me souviens d'une phrase de Pierre Barou qui me disait l'accordéon, c'est un instrument dont tous les pays s'approprient comme instrument national. C'est vrai qu'on va au Brésil, il fait partie du folklore, en Roumanie, en Russie, en Chine, en Italie. Donc, il faut pas le couper de ses racines-là. Après, c'est pas pour cela qu'il faut... Un grand piège, c'est de cultiver le complexe de l'orgue. Il y a des accordéonistes magnifiques russes qui jouent des pièces d'orgue. Mais alors, le compliment sublime, c'est de dire « Oh, on dirait pas de l'accordéon ». Moi, je le prends très mal quand on me dit ça.
Brut d'accordéon, Félicien Bru, France Musique.
Je voudrais qu'on t'écoute dans une de ces pièces absolument magnifiques, Oblivion. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette pièce? À quel moment t'as écouté cette pièce pour la première fois d'ailleurs?
Alors, la première fois, c'est mon épouse qui m'a fait écouter. À l'époque, c'était l'indicatif de l'émission de Frédéric Mitterrand, une émission littéraire. Et donc, il y avait cette musique en fond. Indicatif, et Gisèle, ma femme, me dit, mais écoute, on dirait Astor, qu'est-ce que c'est cette musique? Et c'était Oblivion. Et j'étais, je pense, un des premiers après à la reprendre, et je l'ai joué des milliers de fois, et ça a été repris. Je pense que, pour moi, c'est la musique, l'essence de Piazzolla, c'est peut-être la musique la plus simple et la plus sublime que Astor ait pu écrire, et son interprétation aussi est magnifique. C'est une musique de film, hein, de Enrico Quattro. Et ça, la première note au bandoneon, il y a rien de époustouflant, ou il n'y a rien de technique, simplement cette note, cette blanche qui tient ce sol, pour moi, il y a toute l'intensité, la profondeur de la musique de Piazzolla dans cette seule note. Thank you.
Oblivion d'Astor Piazzolla sous les doigts de Richard Galliano et de l'orchestre de Toscane, les cordes de l'orchestre de Toscane. Alors Richard, comme on est dans cette musique absolument magnifique, j'aimerais qu'on parle d'une rencontre décisive quand même dans ta vie, qui n'est pas musicale mais qui pourtant aura tellement compté dans ta carrière. Je l'adore, elle est adorable, c'est Gisèle, c'est ton épouse que tu rencontres en 1975, et moi je suis aussi admiratif de toi pour ça, parce que tu as toujours su ménager finalement cette vie de famille, tu as tes enfants, Jean-Christophe, Marion, Gisèle qui est très présente. Comment ça s'est passé? Parce que moi je suis toujours épaté, je me dis mais comment on peut faire 200 ou 220 ou 240 concerts par an et avoir des enfants et réussir à gérer tout ça? Comment ça s'est passé
pour toi?
En
fait, on est originaire tous les deux de la région de Nice, mais on s'est rencontrés à Paris. Et je dois dire qu'elle me supporte dans les deux sens. Depuis, je ne compte plus les années, ça fait 45 ans qu'on est mariés, mais elle a toujours été très présente, proche de Nougaro, de Piazzolla, de tous ces musiciens, tous Silmans qu'il adorait. Elle a son caractère, j'ai le mien aussi, donc ça veut dire qu'on se dispute très souvent. Mais voilà, c'est pas un couple tiède, mais voilà, c'est.
Est-ce que c'est une vie solitaire, la vie de musicien, finalement?
Je pense. On est tous solitaires, ne serait-ce que devant la mort. On se retrouve seul. Et par rapport aux préoccupations qu'on peut avoir par rapport à la musique, on se retrouve toujours, même si on a des conseils, j'ai eu les conseils vraiment très, je parle toujours d'eux, de Nougaro, de Piazzolla, de mon père sur son lit de mort qui m'a dit « Richard, ne change rien », parce qu'il sait que je me creuse toujours la tête pour chercher, même si je reviens toujours aux mêmes valeurs, mais c'est souvent tempête sur le crâne quand même. Hein, mais c'est bien, c'est la vie, quoi. Je crois qu'on trouve jamais... on est toujours à la recherche d'un idéal, parce qu'on est des militants du beau, on cherche la beauté dans la vie, on cherche voilà notre politique, c'est ça, c'est.
On l'entend immédiatement dans une de tes compositions que j'adore, dédiée à ton épouse, ça s'appelle Gisèle et c'est en duo avec le grand Thierry Esquèche à l'orgue. Alors Richard, après une carrière comme tu as fait, aujourd'hui, quels sont tes rêves, quelles sont tes envies?
Je disais que j'ai toujours un peu les mêmes préoccupations. Bien sûr, il y a l'âge, lorsqu'on arrive à 71 ans, on se dit bon, J'ai lu récemment un livre, je crois que c'est Sénèque qui dit ça, qui dit que la mort, elle n'est pas devant nous, elle est derrière. Et j'aime bien ça, parce que c'est vrai que malheureusement, tous les souvenirs dont on a parlé, c'est ça la vraie mort pour moi.
Oui, c'est vrai.
Bon, parce que ce qu'on cherche, c'est plus le bonheur des gens qui vous entourent, quoi. Mais le meilleur conseil, c'est, moi je leur dis, de trouver leur passion et d'en faire leur métier. Comme finalement, grâce à mon père, j'ai fait ça, quoi.
Donc finalement, la première boussole et l'homme déterminant de ta vie, c'est ton papa?
Ah, c'est vraiment mon... Ah, oui, jusqu'au bout. Il s'est d'ailleurs effacé, à tel point que... Et puis à la fois, par exemple, si je n'ai pas joué le répertoire musette, c'est que inconsciemment, je savais que c'était son répertoire. Donc, malheureusement, aujourd'hui qu'il n'est plus là, j'ai encore plus envie de jouer cette musique-là, c'est-à-dire les classiques du musette, vraiment, Reine de musette, tout ça que j'ai jamais joué. Je vais être le seul accordoniste à jamais avoir joué ça. Mais de m'avoir donné le goût de la musique, ça c'est magnifique. Mais bon, mon père était un professeur magnifique. Et c'est vrai qu'il était, il avait ce don, il n'avait pas fait des études pour être professeur. Il a pris sur le tas, c'était l'expérience, mais le nombre de musiciens professionnels qu'il a formés, et un peu comme j'ai pu faire, non pas touche à tout, mais des gens qui peuvent jouer de la musique classique, du jazz, animer un bal. Pour moi, les musiciens que je respecte et que j'admire, ce sont des musiciens comme ça. Et les musiciens qui donnent envie de danser, surtout. Hein. Ça va de l'accordoniste de bal à Stevie Wonder.
C'est vrai.
À Ray Charles, voilà.
C'est vrai. C'était vraiment un bonheur de te recevoir, de discuter avec toi. Merci du fond du cœur. Merci d'avoir été là pour ces deux émissions. Merci pour ton talent, ta bienveillance. Merci d'avoir porté si haut notre instrument. Merci aussi pour tes conseils qui m'ont été précieux. Parce que si je fais ce métier aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à toi et je te dois beaucoup. Brut d'accordéon, c'est déjà fini pour aujourd'hui. À regret, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été là. Et rendez-vous la semaine prochaine pour évoquer un musicien dont nous avons beaucoup parlé avec Richard, puisqu'il t'était très cher, le très grand Astor Piazzolla. Cette émission est à retrouver en podcast sur francemusique.fr. Un grand merci à toute l'équipe, Lionel Quentin, Élise Le, Nelly Portal et Nathalie Rouvillain. Il est bientôt 16h et c'est donc l'heure de retrouver Jérémy Rousseau et ses invités pour la tribune des critiques de disques. Excellente semaine à vous toutes et tous, passez un très joyeux Noël et comme dit Michel, vivement dimanche.
À réécouter sur francemusique.fr.